deuxième partie, les problèmes du barrage. Et donc, on voit que 5 ans plus tard, dès 1884, 85, 87, 90, des plaintes de Pont-en-Royan pour les odeurs. Et des avis de l'hygiène de 84, 86, 91. Le conseil municipal de Pont rappelle l'état déplorable de ce lac, avec des nappes d'eau stagnantes, avec des détritus qui pourrissent au soleil, qui donnent des odeurs pestilentielles. L'ingénieur dit « c'est pas du tout, il n'y a pas de danger de peste, la mortalité est en baisse, il y a juste un peu de variation des niveaux d'eau de pas plus de 40 cm, c'est pas grave. On pourrait remblayer les rives, etc. » La commune avait demandé de faire des digues. L'ingénieur dit « si vous faites des digues, vous trouverez l'eau de l'autre côté de la digue et elle va stagner encore plus. » Le concessionnaire du barrage, lui, dit « mais vous n'avez qu'à le dire en 1874, hein, quand on a commencé les travaux, vous n'avez rien dit, maintenant c'est trop tard. Il y a des odeurs, là, tout, on n'y peut rien. » Et il n'y a eu aucune fièvre ou aucune épidémie depuis la construction. Le conseil municipal rappelle qu'il voulait des murs, etc. La commission d'enquête se réunit et 5 médecins de Pont-en-Royan ont écrit un mémoire à la commission. On nous témoigne à la commission qu'il y a 10 fosses septiques et qu'en général, les eaux fécales vont directement à la Bourne. C'était une source d'odeur. Elles vont au droit de la mairie, comme si les eaux de la Grand-Rue, la Teute, coulaient le long de la mairie, là où c'est l'entrée du musée de l'eau maintenant, ou peut-être juste de l'autre côté. Je n'ai pas compris ce schéma-là. Nous n'avons pas encore reconstitué les égouts du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Les eaux des fontaines sont prises à la Bourne. On alimente les eaux des fontaines, il n'y a pas encore l'eau courante, hein, donc on va à la fontaine, par de l'eau de la Bourne, mais elles sont filtrées sur du gravier et du charbon. À cette époque-là, hein, 1890 ici, je suis. La mortalité a effectivement reculé, comme l'a dit l'ingénieur, mais la population a aussi reculé. Ce qui fait que peut-être que le taux est toujours le même et qu'on constate qu'il y a bien eu 2 épidémies récentes, l'une de fièvre typhoïde, donc c'est la principale crainte à cette époque-là, et l'autre de diphtérie. Et finalement, les conclusions, c'est qu'il ne faut plus faire varier le niveau de l'eau parce que le gardien du barrage a tendance à faire varier de 40 cm pour lui avoir plus facile pour pêcher dans une nasse qui met sans doute à la sortie de l'eau, comme presque j'ai compris. On lui demande également d'enlever les cadavres d'animaux qui sont dans le lac, mais on conseille aussi à la commune de Pont de dire aux habitants qu'ils ne doivent plus jeter les dépouilles d'animaux dans le lac. Peut-être que le boucher n'allait pas très loin pour jeter ces dépouilles. Finalement, il y a encore en 1907 des odeurs, on trouve du gravier jusqu'au pont Picard, il y a des immeubles submergés, il y a eu du chômage à la soierie, c'est-à-dire au couvent, donc les eaux ont dû monter jusque dans le couvent, et également au moulin Boissieux. Et la vase du lac, elle donne aussi du gravier dans le rognon, ce qui fait que le rognon a tendance à déborder jusque dans le cimetière, etc. Bref, encore beaucoup de conflits à ce sujet jusqu'en 1910. Et alors, il y a un accord, et finalement, on va baisser un peu le niveau du barrage. Alors, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce canal, finalement, il alimentait non pas 22 000, non pas 33 000 hectares, mais 10 000 hectares. Parce que seuls 10 000 hectares étaient disponibles, demandeurs. Je n'ai pas compris pourquoi, mais finalement, ce canal n'a jamais alimenté en eau que 10 000 hectares de terres agricoles. Et puis, comme ça ne sert au fond qu'en été, très vite, la société du canal a cherché d'autres concessionnaires. En 1910, elle fait une concession à l'usine de production électrique d'Écancières. Mais après, et ça c'était intéressant parce que nous avons une conférence sur les greniers dans pas peu de temps, on a aussi concédé de l'eau à des moulins et on les a fait fonctionner avec l'eau du canal. À M. Toussaint Rivière à Auberive qui avait des soieries, un dévidage de soie, à Paul Froment qui tenait une fameuse scierie à la sortie d'Auberive dont on va parler avec les grumiers, à Antoine Andrevet à Saint-Just pour un moulinage et à Léon Laurent à Saint-Nazaire pour un tissage. Donc au total, il y avait 3 turbines et une roue de moulin, celle de Saint-Just, qui était alimentée par les eaux du canal, sauf quand elles étaient nécessaires pour l'irrigation. Et la dernière, la petite centrale de Auberive, qui est directement sur le barrage, elle date de 1984. Mais donc finalement, on constate que le débit d'étiage, donc le minimum d'eau de la Bourne, a été surestimé, et que très souvent aussi, il manque d'eau, il y a des fuites d'eau. la société va abandonner, elle va faire faillite en 1930, de sorte qu'on va passer à un syndicat de communes, ce qui est encore, je crois, la situation aujourd'hui, mais avec des participations d'agriculteurs. Et puis, troisième période, donc je vous ai dit un peu la vie du barrage, troisième période, tout change, quand on va commencer à utiliser les pompes, l'aspersion plutôt que la dispersion. Et donc, on va mettre des tas de postes de pompage, y compris sur le Rhône, dans la plaine de Valence. Et donc, on va apporter beaucoup plus d'eau avec d'autres systèmes et la gestion de l'eau va être très différente. Ce n'est plus du patrimoine, donc j'arrête.